rencontré ce problème un jour, en parlant de la civilisation grecque. Ou peut-être ce sera la nuit d'études, comme ça viendra. Et alors, par hasard, mais évidemment il n'y a pas de hasard, vous allez me dire, mais c'est une coïncidence, à la composition, on a eu les Hébreux. Alors devinez qui était le premier de la classe. Bon, je referme la parenthèse. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça?
La résurrection, la langue.
Je parle du sionisme. S'il vous plaît. Et je vous ai la question suivante. Toutes les tentatives messianiques pendant 2000 ans, et Dieu sait qu'il y en a eu, okay, je vous ai parlé de la tentative du judaïsme français au temps de Rachi. C'est à vous que j'en ai parlé ou pas? C'est à vous que j'en ai parlé. D'ailleurs, Madame Meyer vous en reparlera. Rappelez-moi que je lui demande de vous en parler plus en détail en cours d'histoire. Tout ça, ça n'a pas réussi. Essayez de dire par vous-même pourquoi le sionisme a réussi, quelles que soient les difficultés auxquelles il se confronte, parce que le monde entier est contre, okay, les juifs y compris. Mais pourquoi le rassemblement des exilés a pu se faire par l'entreprise sioniste alors que ça n'a pas marché jusque-là? Et Dieu sait que l'envie des juifs de revenir dans le pays était sincère. Okay. Vous rappelez l'année prochaine, M. Bouscapin. Quelle est la réponse? Qui, les juifs? Alors tu connais pas la période la première période du sionisme. Ce sont des juifs dont personne ne parlait l'hébreu, sauf les professeurs d'hébreu. Vous avez encore des pionniers du sionisme, qui sont âgés maintenant, et qui n'ont pas eu le temps d'apprendre l'hébreu à l'Ulpan. Il fallait qu'ils travaillent la terre. C'est leurs enfants qui leur apprennent l'hébreu. Vous savez quelle est la définition de la langue maternelle pour un Israélien? C'est la langue que les enfants apprennent à leur mère. Et parler toutes les langues possibles et imaginables. Dans ce pays, on parle 120 langues. Et donc, c'est pas vrai. C'est pas ça. Et je me rappelle la première fois que ma petite fille, qui était encore toute petite, est sortie de l'école, et puis elle m'a demandé de l'aider dans un exercice. Moi, je l'ai aidée dans mon hébreu. Et ce paradis du Moyen-Âge. Bon, depuis, j'ai appris l'hébreu israélien. Elle m'a dit, mais papa, tu parles l'hébreu du Shabbat? Le français du dimanche, vous connaissez. Alors, quelle est la raison?
C'est qu'il y a eu que pas beaucoup de gens qui sont restés dans...
Vous savez, et combien il y avait dans les premières aliyot, dans les premières vagues de aliyah du sionisme, une poignée de gens. Rien du tout. Ça a commencé avec 1, 2, 3, 4, 5, comptez-vous. Donc là aussi, c'est pas la réponse.
Ils ne se sont pas mis d'accord sur...
Attends, qu'est-ce que tu dis?
Ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur une langue vivante, sur une langue...
Mais non, tu répètes ce qu'elle a dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, vous avez compris ma question? Il y a eu des tentatives messianiques, entre guillemets, nombreuses, jusqu'au temps du sionisme. C'est le sionisme qui apparaît comme le messianisme authentique. Pourquoi?
Parce qu'ils ont commencé à acheter des terres.
Mais les autres aussi, ne demandez pas mieux. Que... Le rassemblement des exilés. Mais c'est ce que voulaient les autres aussi. Ça a échoué.
Parce qu'il y avait un pays, je crois que l'émancipation...
Mais avant qu'il y soit, il n'y en avait pas.
L'émancipation, à partir de la Révolution française, a montré d'une part ses carences, et d'autre part, a permis l'éveil d'un nouveau nationalisme juif.
Eh bien justement, le sionisme n'est pas sorti des sociétés occidentales qui avaient pour modèle la Révolution française. Il est sorti d'Europe, le sionisme politique, sorti d'Europe centrale et d'Europe orientale, où la solution à la française, l'émancipation des juifs, ne pouvait pas marcher. J'ouvre une petite parenthèse, les minutes, pas toi. On avance dans l'analyse. La solution de l'émancipation, c'est-à-dire que, par exemple, l'État français, au moment de la Révolution française, le passage de l'ancien régime au nouveau régime, a voulu régulariser le statut civique des habitants du territoire. Il avait affaire à des minorités nationales au sein de l'État français monarchique, et en particulier la minorité juive. Il y en avait d'autres, mais surtout la minorité juive. Et alors, finalement, on a décidé de donner le statut de citoyen, à certaines conditions, à tous les habitants du territoire qui n'étaient pas du tout sujets français. C'est clair jusque-là. Bon. Eh bien, ça c'est la solution de l'émancipation à la française, qui était le modèle après la révolution de 48 dans les autres pays occidentaux. Ça a pu marcher dans les pays occidentaux, je veux dire, l'Allemagne jusqu'à l'océan, les petits pays comme l'Italie, la France, etc., et l'Allemagne, et l'Angleterre, parce qu'il y avait peu de juifs par rapport au nombre de la population totale. Donc, je ne sais pas, 25 millions de Français à l'époque, ou 20 millions de Français à l'époque, pouvaient donner la citoyenneté française à 100 000 juifs. C'était vraisemblable. Okay? Mais en Europe centrale, en Europe orientale, les juifs étaient par millions. Et alors, comment voulez qu'un pays comme la Pologne, ou qu'un pays comme la Roumanie, ou la Hongrie, ou la Russie, donne d'emblée la citoyenneté polonaise, roumaine, hongroise, russe, à des millions d'étrangers qui sont les juifs? Vous avez compris le problème? C'était impraticable. C'est la raison pour laquelle le nationalisme juif, de ce point de vue-là, est né dans ces régions-là, et que jusqu'à la guerre d'ici, enfin jusqu'à récemment, je veux dire, bon, jusqu'à la guerre mondiale, il n'y avait pas un seul Israélien d'origine française. Est-ce que vous avez lu un livre, je ne sais pas si vous l'avez signalé, de Albert Londres, ça vous dit quelque chose? Le juif errant est arrivé. Lisez ce livre-là, vous verrez, à cette époque. Il n'y avait pas un seul. Les juifs français sont arrivés quand les juifs polonais, les juifs nord-africains sont devenus français. Alors ils sont venus en Israël. Mais les français eux-mêmes, il y a des cas particuliers qui sont arrivés après, avec les vagues de Aliyah de 48 et surtout de 67. Les juifs français avaient intégré la solution à la française, c'est-à-dire l'émancipation. Vous avez compris pourquoi il faut reconnaître cela, okay? Je l'ai dit une fois, un jour on fera l'appel au jugement dernier des communautés juives de l'histoire, on appellera le judaïsme français, une voix répondra « mort pour la France ». Vous vous rappelez de ça, okay? Ce qui a failli m'arriver, j'ai fait 3 ans de guerre dans l'armée française. Et si j'étais mort à l'époque, Dieu préserve, j'aurais été mort pour la France. Alors que mon combat était tout à fait autre. Juif contre les Allemands, ça n'avait rien à voir. Bien, je reviens au problème. Je repose ma question. C'est-à-dire, il y a énormément eu de tentatives de mettre fin à l'exil. On appelle ça des faux messianismes, avec une expression non appropriée, okay, mais ils ont échoué, tous. Le sionisme a réussi son programme, dans les 1000 difficultés qu'il connaît, mais par rapport à rien, ce qu'il y a, c'est la création ex nihilo. Okay, c'est clair? Comment expliquer ça, que le sionisme a réussi alors que les autres ont tous échoué, dans l'ordre?
Okay. Donc, une unité.
Une unité à quel niveau?
De faire vraiment le rassemblement de tous les gens qui étaient en diaspora.
Oui, mais pourquoi ça c'est ma question, je répète la question. Pourquoi ça que tu dis a réussi avec les sionistes et pas avant? Tu as compris? Faites bien attention à ça, j'ouvre une parenthèse de méthode. Faites bien attention lorsque vous répondez en répétant la question d'une autre manière. C'est ma question, c'est pas la réponse. C'est clair? Attendez, quelqu'un a voulu parler là-bas?
Oui, avec Herzl, il y a eu une prise de conscience qu'il y avait de l'antisémitisme.
Il y a toujours eu l'antisémitisme.
Oui, mais avec
Il y a toujours eu l'antisémitisme. Ça ne suffit pas à expliquer. Pourquoi la réaction à l'antisémitisme, et je vous dirai plus tard dans d'autres analyses, le sionisme, son programme, ce n'était pas la réaction à l'antisémitisme. C'était de sauver l'identité juive en péril, pas seulement par l'antisémitisme, mais aussi par l'assimilation. Alors, une minute. En passant, ça répond aussi un peu à l'antisémitisme, mais ce n'est pas l'objectif du sionisme. Parce qu'on pourrait répondre à l'antisémitisme en allant au Canada, jusqu'à ce qu'il y ait l'antisémitisme, on ira à Madagascar. Et ce n'est pas central dans le projet sioniste, l'antisémitisme. Ça, c'est les contingences secondes qui ont fait que ça apparaît comme ça. Je pense que c'est clair. Je vais vous faire l'analyse. Un juif est en but à l'antisémitisme. Pour se défendre, il devient hébreu. Mais c'est tout à fait autre chose. C'est clair. Pour se défendre, il devient hébreu. C'est tout à fait autre chose. C'est clair? Bon. Alors, quelqu'un a une autre hypothèse? C'est plus les langues, hein?
Peut-être parce que c'était une manière préparée, c'est-à-dire que les gens se sont réunis.
si vous savez comme c'était préparé, quand les premiers, je vais dire une chose, quand les premiers Khaloutsim sont arrivés ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des moustiques, la malaria, hein, il y avait du sable et des pierres, il y avait des Turcs, et puis il y avait quelques fonctionnaires de l'Empire britannique. Il n'y avait rien, il faut le savoir. Il n'y avait rien de préparé. Les premiers qui sont arrivés, ils sont arrivés avec rien. Il n'y avait même pas Mayanot.
Avant, il y avait ceux qui sont préparés.
Mais les autres aussi. Et ils se sont préparés à quoi ?
Psychologiquement, à combattre la terre et les hommes.
Ah, très bien. Alors, va plus loin. Je crois qu'on est sur le bord de la France. Ils avaient un projet politique. Pourquoi le sionisme a réussi ? Parce que c'était un mouvement politique. Pourquoi tous les autres messianismes ont échoué ? Parce que c'était des mouvements religieux, tout simplement. Voilà, je vous ai dit une chose qui va vous dépayser. C'est clair. Qu'est-ce que la Torah attendait pour, comme fin d'exil ? Qu'on restaure la nation hébraïque. Et pas qu'on fonde des synagogues sous l'Empire turc, sous l'Empire britannique. C'est clair ? Les synagogues, c'est un autre problème. Ça va ? C'est-à-dire, tous les autres mouvements étaient des mouvements mystiques. Alors ça a échoué. Étant donné que le programme messianique est premièrement un programme politique, la première fois qu'il y a eu un programme politique, ça a réussi. Vous avez compris ? C'est clair. Je reviens avec la question que vous avez toujours en suspens. Les religieux de l'étranger, il y a une erreur fondamentale dans leur tête. C'est clair ? Ils sont en train de comparer des synagogues à Trifouille-les-Oies et des synagogues à Bnei Brak. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la nation hébraïque.
Est-ce que c'est clair ? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. La révolution française, c'était bien un mouvement politique aussi ?
Oui.
Mais pourquoi est-ce qu'elle
n'a
pas réussi ?
Qu'est-ce qui n'a pas réussi à la révolution française ?
Ça a réussi.
Laissez-la parler. Quand tu dis pourquoi il n'a pas réussi, ce « il », c'est
qui ? Ça n'a pas réussi puisque l'impérialisme s'est réinstallé.
Bon, tu veux dire, la Révolution française, dans le terme de tout à l'heure, universalisme, impérialisme, ça je ne vous ai pas encore donné la réponse, rappelez-moi, je vous donne la réponse, je l'ai donné la dernière fois, mais trop rapidement, a échoué en tant que mouvement universaliste, mais en tant que révolution impérialiste, elle a réussi. Et tu as court-circuité de sujets, mais on était sur un tout autre sujet. Les messianismes juifs, pendant ces 2000 ans, des juifs qui ont voulu revenir en Eretz Israël, hein, avec à la tête quelqu'un qui a dit c'est moi le Messie. L'histoire a dit peut-être non. C'est clair. Eh bien, ça a toujours échoué. Pourquoi ? Précisément parce que c'est un mouvement mystique où quelqu'un a dit je suis le Messie, venez avec moi, et le peuple juif n'a pas suivi. C'est clair. Ça a échoué. Parce qu'on s'est trompé de programme. La preuve que le sionisme est un messianisme authentique, c'est que ce n'est pas cette formule-là que quelqu'un a dit je suis le Messie. Ça a l'air paradoxal ce que je dis là, okay ? Et j'ai pas dit que le sionisme est un messianisme sans messie, j'ai pas dit ça, okay ? Mais ce que j'ai dit, c'est la première fois qu'on voyait un programme correspondant à ce que la Torah attend de l'espérance messianique, restaurer la nation hébraïque. Vous voyez, c'est clair ? Le grand schisme qu'il y a eu entre le Mapai et le Mapam, qui faisaient partie jusqu'aux dernières élections du Maharar, ça vous dit quelque chose, c'est mon barbare, hein ? Tout le monde comprend ? Dans le sionisme socialiste, il y a eu un schisme entre deux grands partis. Le parti de Shimon Peres aujourd'hui et le parti de Shem Tov, le Mapam. Vous voyez ce que je veux dire ? Disons, pour la correspondance un peu avec la politique en France, si vous avez le parti socialiste et le PSU, par exemple. Okay ? Pas les communistes, les communistes c'est encore autre chose. Mais... je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Et ils étaient en controverse sur le fait de savoir s'il fallait restaurer une nation hébraïque, ça c'est le Mapai, okay, ou bien une nation binationale, c'est-à-dire juif et arabe, les deux nations en même temps. Alors ça, le Mapam était à l'époque pour la formule. Pas nation juive, mais nation judéo-arabe, et le Mapai était pour nation juive. Finalement, c'est le Mapai qui a eu la majorité. Vous comprenez là ? Je vous explique sur quoi ils se sont séparés. Voilà donc la réponse que nous avons. Pourquoi la fin de l'exil de l'Empire romain a réussi avec le sionisme, parce que le sionisme était le seul mouvement messianique authentique, tout simplement. Parce que le premier moment du programme messianique, c'est la restauration politique de la nation hébraïque. Tu vois ? C'est clair ? On exportera par la suite. Mais pour le moment, je voulais répondre à ça. Ça va jusque-là ? Bon.
Mais c'est marqué où, ça ?
Quoi, c'est marqué ? Tu ouvres les yeux et tu vois ce qui se passe. C'est marqué. Je vais te dire, je ne peux pas te dire où c'est marqué parce que je ne l'ai pas encore écrit. Si je ne l'avais pas écrit, je pourrais te dire c'est écrit. Maintenant, je réponds à ta question. C'est marqué où que le premier point du mouvement, du programme messianique, c'est la restauration politique? Ça, c'est marqué dans Maïmonie, dans le code de Maïmonie. C'est clair? Quand on étudiera ça, c'était ça ta question. Mais ce que je veux dire, ce qu'on ouvre les yeux, on voit, c'est ça. Quelle est la différence entre le sionisme et les autres mouvements messianiques qui ont échoué? C'est que le sionisme avait pour objectif un programme politique. C'est clair? C'est la première stade. Alors, ça vous éclaire sur la position des religions anti-sionistes, l'erreur de fond qu'ils font dès le début. Vous avez compris? Ils attendent un autre messie que le messie de la tradition juive. Parle plus fort. En définissant l'objectif messianique, bien entendu. Mais surtout, vous avez les précurseurs du sionisme politique, tant dans le monde ashkénaze que dans le monde sfarade, qui ont donné, les livres existent, qui ont donné le programme de l'accomplissement messianique à travers le sionisme, le Rav Kalischer chez les ashkénazim, le Rav Al-Kalai chez les sfaradim, et qui l'ont dit en clair. Quand on lit le Rav Al-Kalai, il semble qu'on lise Herzl. D'ailleurs, Herzl, le grand-père de Herzl était un paroissien du Rav Al-Kalai, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous savez qu'Herzl était sfarade. Vous savez pas ça. Bon. Le Rav Al-Kalai était un des rabbins de la communauté sfarade de Bulgarie, les Balkans. Okay. Bon, en réalité, Herzl était un juif assimilé, mais d'origine sfarade des Bulgares. Alors, vous vous habituerez à vous familiariser avec cela. C'est intentionnellement que j'ai schématisé un peu les problèmes. Ça veut dire que chaque fois qu'on a eu affaire à un mouvement mystique qui voulait suivre un messie, c'était un faux messie. Okay. Pour la première fois qu'il s'agit du peuple juif qui décide de mettre fin à son exil, et peu importe les causes immédiates, les pogroms de Russie ou d'Europe centrale, et avec un mouvement politique, ça réussit. Alors le bon Dieu, c'est ce qu'il fait. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, la grande faute des juifs pieux qui sont anti-israéliens, enfin anti-sionistes, anti le projet actuel, c'est pas tellement d'être pieux, ça on peut leur pardonner. Mais c'est que c'est un blasphème fondamental. Ils sont en train de reprocher au bon Dieu comment il mène l'histoire juive. Il leur dit, c'est pas comme ça que tu veux, comment tu vas. Tu nous as envoyé Ben Gurion. Tu vois ce que je veux dire? C'est inouï. Attends, ça et toi. C'était pas un vrai. Désolé, c'était pas un vrai messie, c'était un vrai faux messie. Eh bien, c'est pour ça. Ça a échoué, pourquoi? Parce qu'un bonhomme, quelles que soient ses qualités d'ailleurs, avant de devenir fou, parce qu'il est mort fou, je sais pas si vous savez, ça lui a tourné la tête. Quelles que soient ses qualités, il s'est trompé de programme. Comment ça fonctionnait le sabbatéisme? Eh bien, on a dit, quelque part, il y a quelqu'un, peut-être c'est le Messie. À force d'en entendre, il dit, peut-être c'est vrai, alors c'est moi. Et puis, pas plus fort.
Le Rabbi qui a crédité la venue de Bar Korba.
Plusieurs, pas seulement. Ah, non, tu parles de Bar Korba, elle parle de Shabbat Haïti.
Je parle de Bar Korba.
Ah, de Bar Korba, pourquoi j'ai entendu Shabbat Haïti? Ça veut dire que ça aurait pu, Bar Korba, c'est tout à fait autre chose. Bar Korba, c'est un vrai Messie qui a échoué. Bon, voilà, c'est ça. Tandis que Shabbat Haïti, c'est un vrai faux Messie. Tu vois la différence. Voilà. Et voilà, c'est clair jusque-là.
Mais donc il a échoué dans cette restauration politique. Il n'était pas. Il a échoué à cause du fait qu'il n'était pas.
Il a échoué parce que les Juifs n'ont pas mérité. Mais c'est un autre problème. Alors, avec le recul, on peut dire qu'il n'était pas venu et la situation extérieure était telle que ce n'était pas le moment. Mais il aurait pu réussir. Il aurait pu réussir et là, ça on étudiera au moment de. Quand on étudiera la Homère. Dans le calendrier, il aurait pu réussir si ses partisans étaient unis entre eux. étant donné la division qu'il y avait dans ses partisans, il ne pouvait pas réussir. Okay. Effectivement, si la bataille de Bétard avait été une victoire judéenne et pas une victoire romaine, la face du monde aurait changé. Bon, ça aurait pu l'être, et puis il a échoué. Voilà. Et les vrais messies héritent de ces approximations, par exemple les Maccabées. Okay. Tout le folklore sioniste, c'est Bar Korba, c'est les Maccabées, ça veut dire que c'est les vrais messies qui ont échoué, c'est pas les faux messies. Vous avez suivi le problème. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Top. Qu'est-ce que tu veux dire, toi?
Il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, le sionisme, c'est un programme politique, mais qui est indissociable d'un contenu religieux.
Bien sûr. Alors, il y a des étapes. Je veux dire, une chose qu'il faut corriger, c'est ce qui est arrivé à la Révolution française dans l'atmosphère des communautés du judaïsme de France. Qu'on a défini l'identité juive d'abord par une identité religieuse, alors qu'elle est d'abord une identité nationale. Voilà, si vous arrivez à vous désintoxiquer de ça pendant, il vous faut toute l'année pour ça, c'est l'essentiel. Okay, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est Israël, israélien, si on ne corrige pas d'abord cette erreur. Les Juifs, en France ou ailleurs, c'était une minorité nationale qui avait leur propre religion. À la Révolution française, on a inversé cela. On a substitué l'identité nationale française à l'identité nationale juive, c'est-à-dire judéenne, c'est-à-dire hébraïque. C'est clair ? Et on a inventé un petit appendice d'église juive qui s'appelle la synagogue consistoriale. Vous avez compris ? Vous avez compris le problème ? Alors, quand les juifs pieux de ce profil-là critiquent le sionisme en disant qu'ils ne s'occupent pas de religion, ben, c'est eux qui se trompent fondamentalement de programme. Okay. Il faut d'abord reconstruire la nation. Et cette nation a un problème avec la Torah. Ça vient après. C'est clair ? Ça vient après logiquement, bien sûr, on fait tout en même temps, mais c'est clair si vous voulez. Parce que pour être juif, religion, il faut être juif, nation. Mais c'est ça qu'on avait oublié. Par exemple, lorsqu'un non-juif se convertit au judaïsme, ne croyez pas qu'il se convertit à la religion juive d'abord. Il se naturalise à la nation juive et la nation juive décide de l'accepter dans sa religion. C'est tout à fait autre chose. Vous avez compris le problème ? Allez, c'est clair. Je me rappelle une fois, il y a très très longtemps, j'étais sur un voyage pour venir en Israël. À l'époque, on n'avait pas encore de El Al, d'avion et tout ça. On était sur des petits bateaux, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce temps héroïque, qui mettait 7 jours pour traverser la Méditerranée. Et alors, c'était avec un groupe d'étudiants, on était venu faire un séminaire chez le Rav Kook, et au début des années 50. Et il y avait sur le bateau un groupe de pèlerins, de pèlerins catholiques avec un curé. Qui venait faire un pèlerinage en Israël. Au bout de 7 jours, imaginez un petit bateau. Finalement, on a fait connaissance. Le curé parlait français, on a discuté longtemps, on leur a même appris des chants hébreux, et top. Et alors, à un moment, il me pose une question. Il me dit, c'est extraordinaire ce qui se passe en Israël. On voit tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Vous connaissez le folklore agent juif, le désert qui refleurit. C'est clair, vous voyez tout. Et pour quelqu'un qui connaît la Bible comme un curé, il voit que ça, c'est ça. Puis il me dit, mais je ne comprends pas. Et pourquoi ils ne sont pas pieux ? Pourquoi ils ne sont pas religieux ? Et d'abord, c'est une calomnie, mais aucune idée de la foi qu'ils ont. Ils accomplissent des prophéties sans y croire. Ça a été une foi connaissante. Et vous comprenez, je veux dire. Mais d'abord, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de synagogues en Israël. Ah oui, oui, il y a des synagogues en Israël. Ah bon, il était rassuré. Et puis... Après, je lui ai dit, écoutez, comprenez bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pour Sylvia ?
Non, c'était
pas. Ah, c'était pas. Alors, je lui ai dit, écoutez, s'il s'agissait d'une espérance humaine, des gens qui ont une foi et qui décident finalement de l'accomplir, bon, c'est une œuvre humaine. Par exemple, les Mormons en Amérique, vous savez ce que c'est que les Mormons ? Bon, ils avaient un idéal, ils ont décidé de chercher une terre vierge pour s'installer. Et ils ont réalisé leur idéal, une œuvre humaine. Alors, si c'était des juifs pieux qui avaient fondé l'État d'Israël, on se serait dit, c'est une œuvre humaine. Il y a des juifs qui ont une foi, ils se sont arrangés pour réaliser l'objet de leur foi. Mais c'est des juifs qui n'y croyaient pas à la religion juive, qui ont fait cela. C'est la preuve que c'est Dieu qui le fait, on est tranquille. Oui, c'est clair. Le curé l'a compris. Non, réfléchissez bien à ça, c'est pas une blague. Réfléchissez bien à ça. Si c'était... je ne sais pas moi, les barbus qui avaient fondé un état, c'est pas leur affaire, les barbus ça fonde des synagogues. Bon, mais si c'était les barbus qui avaient fondé l'État, on serait inquiets. On serait dit, c'est un État de barbus. Mais c'est les Khaloutim qui ont fait l'État juif et qui ont accompli les promesses de la Bible. Okay? Alors ça, c'est la preuve que c'est Dieu qui l'a fait. Vous avez compris ? C'est bien que si vous allez raconter ça à un de vos barbus, il va tomber en syncope. Alors, munissez-vous d'un livre de psaumes pour le ressusciter. Et vous lui direz, syncope, priez pour nous. Bon, vous avez compris ce que je vous ai dit. Alors, je reviens. Il n'y a plus d'autres questions ? Bon, je reviens alors au sujet du cours. La parenthèse n'était pas inutile. Ça y est, c'est clair ? Je vous donne un exemple. Dans la prière, vous vous rappelez ce qu'avait dit M. Neher à la soirée là-bas ? Dans la prière, Dieu est appelé, vous verrez dans Shmoneh Esrei, Bone Yerushalayim, qui construit Jérusalem. Bon. Et alors, les Juifs purs en question, ils voient que Jérusalem se construit. Ils ne peuvent pas le voir, ok ? C'est clair ? Ils voient qu'il se construit. Alors, comment, qu'est-ce qu'ils font avec leur prière ? Ils disent, c'est pas Dieu qui construit Jérusalem. Mais comment c'est écrit ? Ils disent, c'était du collègue. Okay. Solel Bonnet, vous savez ce que c'est, Solel Bonnet ? L'entreprise de construction des routes en Israël, ça s'appelle Solel Bonnet, Jérusalem. Et alors, ils disent, mais oui, Jérusalem se construit, mais c'est pas Dieu. Alors, qui c'est, le diable ? Vous voyez dans quelle position ils se mettent ? Okay. Pendant 2000 ans, Jérusalem juive, ça pouvait pas se construire. Évidemment, ça se construit. Alors, ils ont veulent au bon Dieu, parce que c'est Teddy Collet qui construit. Mais c'est son métier. Vous voyez, un rocher qui va construire une ville. Vous voyez l'erreur qu'il y a au fond. C'est clair ? Et Teddy Collet, rocher qui va, vous le voyez ? Non, évidemment pas. Alors, chacun a sa place. Pour construire une ville, il faut des architectes. Et alors, on vient et on dit, ah, mais la ville n'est construite par des architectes. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui tombe pas rond dans leur tête. Tout simplement. Ça va ? C'est bon ? Ça ne veut pas dire que j'ai une sympathie particulière pour Teddy Golek. Hein, c'est aussi sur les bords un anti-juif, mais un peu. Mais c'est lui qui construit la ville, alors c'est lui qui construit la ville. Baruch Haba, celui qui construit la ville. Il y a dans le Talmud, je me rappelle Rav Kook, ça vous a raconté ça, un de ces juifs pieux, comme vous dites, qui lui avait demandé à peu près la même question, mais, alors il lui a ouvert le Talmud. Il y a un enseignement de Rabbi Yochanan, des brigands. On détruit le temple, des brigands le reconstruisent. C'est écrit comme ça. Bon. Il dit, ben, les brigands sont arrivés. Brochim Abaim, messieurs les brigands. les sionistes, hein. C'est clair. Voilà, allez, je referme la porte. Je crois que le nœud de l'erreur est là. C'est un déplacement d'identification. C'est clair ? Ça ne veut pas dire que dans le mouvement sioniste, il n'y ait pas des problèmes avec l'authenticité juive de la Torah, il y a des problèmes. Mais c'est ce mouvement-là qui est le mouvement kasher. Ça va ? C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Tous les autres sont disqualifiés par l'enseignement de la Torah elle-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va ? Bon, je sais que vous aurez du temps avant de digérer ça. Je vous ai expliqué. Hein, c'est l'heure ? J'ai pas dit ça, mais on a besoin. Je vais raconter une histoire. C'est les brigands qui ont construit l'état dans lequel les saints hommes construiront le temple, mais les brigands. Une histoire assez dit qu'une fois, il y a un rabbi, si, mais je ne me rappelle plus son nom, il mériterait, mais enfin, il sait que c'est lui. Le soir du Kol Nidre, la veille de Kippour, il va pour entrer dans la synagogue, il s'arrête. Et il s'en va. Et toute la Keïla qui attend une heure, il est en méditation à la porte de la synagogue. Il essaie encore de rentrer, il rentre pas, il s'arrête. Alors finalement, avec beaucoup de courage, toute la communauté qui attend de commencer le Kol Nidre, le Kippour, dit qu'est-ce qui se passe ? Alors il dit, je peux pas rentrer, c'est plein de prières. Ça m'empêche de rentrer. Pourquoi ? Il dit, mais toutes les prières qu'ils ont fait pendant toute l'année, elles sont pas montées, ça s'est accumulé, ça m'empêche de rentrer. Alors, et puis il reste encore une heure en méditation, comment il va faire ? Alors finalement, il demande à son secrétaire, vous allez me chercher les 10 plus grands voleurs juifs de la ville. Les brigands, ces voleurs. Vous allez me les appeler. Ils les ont trouvés, certains étaient dans la synagogue d'ailleurs. Et finalement, il les a mis autour de la théba. Il a commencé à faire la prière avec un enthousiasme, avec les brillants autour de lui. À la fin de la prière, son secrétaire a osé lui demander, explique. Il dit, voilà, les portes du ciel étaient verrouillées. Il a fallu que j'appelle ceux dont c'est le métier de débrouiller. Ce jour-là, je ne pouvais passer que les prières des brigands. Claire, c'est pas une blague, c'est passé. Ça. Voilà, ça vous fera comprendre de quoi il s'agit. Ça va jusqu'à là. Alors, quelle heure il est ?
Alors, de toute façon, c'était.
Alors, peut-être on va commencer le cours, oui.
Finalement, c'était une échelle, quoi.
Oui, il y a des étapes. Il y a des étapes, c'est-à-dire le messianisme commence par le sionisme politique. Je vous réserve pour les autres cours, la suite. Mais premièrement, c'est rassemblement des exilés et restauration de la nation hébraïque. C'est bien clair,
okay. On revient au temps des sionistes.
Pourquoi t'en douter? Comme on disait en Afrique du Nord, le petit train est arrivé. Okay. Regarde, si le programme messianique, c'est premièrement rassemblement des exilés. Où tu as vu ça, ma fille, comme on disait à Alger? Où tu as vu ça ailleurs? Des juifs de partout, ils sont là. Hein? 2000 ans après, pendant 2000 ans, on ne pouvait pas. Vous ne vous rendez pas compte de quoi il s'agit? Alors rappelez-vous ce que je disais, il faut ouvrir les yeux et voir. C'est ça que ça veut dire. Et je ne parlais pas à lui. Tu sais, je veux dire d'ailleurs, quand il m'arrive de regarder quelqu'un, c'est qu'il est en face de moi, mais transparent, ça traverse. Hein? Je ne parlais pas à toi. Alors, ça y est, c'est clair? Bon. On peut fermer la parenthèse. Hein? Rappelez-vous cela. 2000 ans, ce n'était pas possible. Subitement, c'est possible, quelles que soient les difficultés. Exister avec des difficultés, c'est autre chose que ne pas exister. C'est une création ex nihilo, pratiquement. C'est clair? Alors, j'ajoute ça pour pour vos questions non dites. Et de deux choses l'une, ou c'est Dieu qui le fait, je parle pour les croyants, ou les croyants du judaïsme, quoi. Ou bien c'est Dieu qui le fait, ou alors qui le fait. Vous avez compris? C'est clair. Alors leur réponse est le diable. Alors on se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire quand ils viennent en pèlerinage dire Kaddish au Kotel. Parasite du diable. C'est clair ce que je disais. Allez, il y a encore une question. Ou bien, non, s'il y a, il y a.
Mais parce que je ne comprends plus, parce que. On va avoir des juifs qui sont passionnés, je veux dire.
J'ai pas dit ça.
Non, mais moi, je. Qu'est-ce que tu dis? Il y a peut-être des juifs qui sont passionnés.
Ah oui, j'ai mal entendu, bien sûr, ce que tu as dit, c'est vrai. Il y a beaucoup de juifs qui sont passionnés.
Alors, oui.
Ça fait pas problème, tellement, mais quand ils sont pieux, ça fait problème. Tu comprends? Qui est des juifs qui ne sont pas concernés par leur histoire? Ils se sont assimilés, ils sont passionnés. Mais qu'il y ait des juifs pieux qui ne soient pas concernés par leur histoire, c'est là où il y a un problème. Alors commençons aujourd'hui à vous l'expliquer. Il y a d'abord à l'origine une erreur de fond.
C'est ça qui met dans ma tête. Voilà. Les gens qui connaissent leur religion, qui étudient et tout, qui sont passionnés.
Voilà, c'est ça. Ça fait problème. Vous vous rappelez Rachi, ce qu'il avait dit dans le texte qu'on a vu vendredi? Vous vous rappelez de cela? Non, pas vendredi, c'est vendredi.
Dans la galoute, on
n'est jamais innocent. Ah oui, c'était que la Kitabet. Par exemple, j'ai pas la Kitabet, Ken. Non, mais je vous ferai ça pour les autres. Et oui, c'est vrai, c'était juste la Kitabet. Bien sûr, ça veut dire les vrais juifs pieux savaient cela. Je vous donne un exemple. Nahmanide a enseigné. Nahmanide est un grand sioniste. A enseigné n'importe quelle mitzvah. Si on est empêché, on ne peut pas la faire, on est quitte. Cette mitzvah de mettre fin à la galoute et de restaurer l'indépendance juive, cette mitzvah d'habiter libre le pays d'Israël, okay, tant qu'on était empêché, on ne pouvait pas. Mais dès qu'on peut, on est obligé. C'est clair? En tout cas dans le principe. S'il y a des obstacles, ça veut dire que c'est des obstacles, mais on sait où on est, on sait qui on est. C'est clair? Il donne un exemple. Il y avait beaucoup dans les pays d'Europe. Pour Soukhot, vous savez, on prend un bouquet où il y a un cédra, un palmier, vous connaissez ça, le loulam, okay. Dans les pays d'Europe où le cédra, c'était très difficile à obtenir. Alors, Nachmanide avait donné à Msak une décision rabbinique que si on ne peut pas trouver un cédra, on n'est pas coupable. Un point. C'est la même chose. Dès que tu as un cédra, tu es coupable de ne pas en avoir un. Alors, tant que tu ne pouvais pas aller en Israël, tu n'es pas coupable. Mais dès que tu peux, tu es coupable. Voilà, c'est ça le problème. Alors, ça, c'est la loi fondamentale, l'évidence de base. Alors, les juifs tués en question, je n'ose pas dire orthodoxe parce que c'est un mot trop joli pour eux, okay, se cherchent des raisonnements compliqués à l'envers pour se justifier de ne pas y aller quand même. C'est clair ? C'est bien compris. Le pire des arguments, c'est de dire « le Messie n'est pas arrivé ». Parce que ça, c'est la preuve qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est clair. Alors, je veux reprendre un peu ta dernière question, ceux qui ont étudié. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez, par exemple, le monde des juristes. Eh bien, le monde des juristes, il y a d'abord une formation de base qui est commune à tous les juristes. Okay, et ensuite, chacun se spécialise. Il y a des gens qui se spécialisent dans les héritages, d'autres dans les, je sais pas moi, les transactions de terrain, d'autres dans les divorces, etc. Les rabbins, c'est la même chose. Ils ont une formation de base et après, ils se spécialisent. Alors, il y en a qui se spécialisent dans la cache-route, dans les divorces, dans les achats de terrain pour les enterrements, enfin, des choses comme ça. Okay, et il y en a qui apprennent la foi juive. Ne croyez pas que c'est une blague, malheureusement. C'est comme ça. Ça veut dire, ils ont étudié, oui, ils ont étudié des choses. Ça, ils n'ont pas étudié. La preuve, vous leur ouvrez le livre, ils disent, non, je ne dis pas, je ne veux pas. Vous, avec un air pieux. Okay. Alors, l'argument qu'il dit, c'est, mon rabbin, il m'a dit, le sionisme, ce n'est pas caché. Une fois, j'ai eu affaire à un comme ça, alors j'ai dit, ton rabbin, il a vécu en quelle époque? Ah, le pauvre, le Saint-Orbe, il est mort en quelle époque? Alors, dit, tu sais que c'est interdit par la Torah de faire parler les morts. Il fait parler un mort. Je lui ai dit, ton rabbin vivant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dirait? T'as compris le problème? En ce temps-là, ils n'ont pas vu. Mais maintenant, celui qui ne voit pas, c'est qu'il est aveugle. C'est clair? Alors, il me reste une minute. Simplement pour vous dire que demain, on fera le cours qu'on devait avoir aujourd'hui. Mais enfin, on n'a pas perdu notre temps.